Allez, c'est parti pour Big Bang. Avec mes invités, nous allons assister aujourd'hui à un combat terrible. Aujourd'hui est un jour spécial, un jour événement, car oui, vous qui écoutez cette émission depuis la rentrée, vous l'avez probablement compris, dans Big Bang, notre but, c'est de vous faire voir le monde à travers les yeux de la science, de vous mettre, pendant quelques instants, dans la tête des chercheurs et des chercheuses qui, là, maintenant, jour après jour, année après année, tentent de décrypter le monde qui nous entoure. Pour moi, leur discipline, la science, est plus que magnifique. Non seulement elle nous permet d'explorer ce qui n'a jamais été vu, de raconter notre histoire, de créer de nouvelles technologies, mais elle est aussi un des liens fondamentaux dont nos sociétés ont besoin. Elle est un savoir qui se transmet de génération en génération, un savoir qui ne pourrait pas exister si nos ancêtres ne l'avaient pas exploré avant nous. Le savoir scientifique est notre héritage commun en tant qu'humanité et il est important qu'il se propage avec honnêteté, avec joie, avec douceur. C'est ce que nous aimons faire toute l'équipe de Big Bang et moi. Mais voilà, notre époque n'est pas du tout à la douceur et à l'entraide, elle est plutôt au conflit. Et comme il est dit que l'intelligence est une mesure de la capacité à s'adapter, nous avons décidé de nous adapter au monde en organisant, dans les règles de l'art, une bataille sanglante. Alors il va sans dire que nous attendons évidemment en retour que le reste de l'année, ce soit le monde qui s'adapte à la douceur de Big Bang, mais nous sommes ici, nous sommes maintenant et l'heure est au conflit. Dans quelques instants, deux scientifiques se feront chacun le champion d'une espèce mal aimée du grand public et ils devront la défendre. Ils devront la défendre avec toute leur science, toute leur empathie et toute leur humanité. Car avec mon invité mystère et vous, cher public, nous devrons ensuite les départager. Voici donc les deux espèces qui vont s'affronter, mesdames et messieurs. Il y a d'un côté les requins et de l'autre les méduses, et l'enjeu est de taille, car à la fin de l'émission, nous voterons pour savoir lequel des requins et des méduses restera en vie, car nous éliminerons tous les perdants de la surface de la planète. Voici donc les deux scientifiques qui vont s'affronter.
Alors, moi je m'appelle Bill François, je suis biophysicien, je m'intéresse à comment la physique modèle les lois de la nature et du vivant, et aujourd'hui je vais défendre la méduse.
Bonjour, c'est Joanne Mourier, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Montpellier, rattaché au laboratoire Marbeck. Et moi j'étudie l'écologie, le comportement et la conservation des requins depuis 20 ans, et donc je vais défendre les requins.
Et pour m'aider à vous départager avec le public, voici le juge qui sera à mes côtés.
Je m'appelle Guillaume Néry, je suis plusieurs fois recordman du monde de plongée en apnée, je suis déjà descendu à moins 126 mètres de profondeur, avec une seule inspiration, et je suis un amoureux des grandes profondeurs, des océans, et des méduses et des requins. Donc je suis dans une position bien difficile.
Vous allez être impartial en tout cas, c'est ce qu'il semblerait. Guillaume Néry, notre tâche ne va pas être simple. Joanne Mourier, Bill François, bon courage à vous et bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct avec le public du studio 621 de la Maison de la Radio. Et c'est parti pour le combat méduse versus requin.
France Inter. Big Bang. Christophe Galfard.
Bon, on va commencer peut-être par se mettre dans l'ambiance. Guillaume Néry, est-ce que vous pourriez nous raconter ce qu'il se passe lorsqu'on plonge dans les profondeurs de l'océan et peut-être des rencontres que vous y avez faites?
Justement, pour rester dans la thématique de cette émission, je pourrais raconter deux plongées avec deux rencontres qui ont été assez marquantes. Alors les méduses, je les rencontre assez fréquemment puisque je nage toute l'année en Méditerranée, été comme hiver, en maillot de bain très souvent, donc avec un regard particulièrement aiguisé pour être sûr de ne pas en rencontrer une de trop près. Mais j'ai le souvenir, c'était il y a une vingtaine d'années, lors d'un entraînement pour battre un record du monde. J'étais à quelques semaines de l'échéance, à l'époque je devais plonger à plus de 100 mètres, je ne sais plus exactement quel chiffre. Et tout d'un coup, une grosse dépression est arrivée et a ramené sur toute la côte autour de Nice, là où je m'entraînais, une infinité de méduses. Et j'avais pas le choix, d'autre choix que de, malgré tout, aller dans l'eau et plonger. Et trouver mon chemin au milieu de ce nuage de méduses. Donc, premier entraînement, je suis allé dans l'eau et on a décidé d'annuler parce que c'était tout bonnement impossible. La mer était devenue gélatineuse. Et le lendemain, j'ai décidé d'y retourner en faisant une espèce de... En essayant d'avoir une confiance dans ces méduses, et j'ai plongé les yeux fermés. Et par moments, j'ouvrais les yeux et j'avais l'impression d'être au milieu d'une constellation étoilée de méduses. Et ce jour-là, j'ai plongé à plus de 100 mètres et pas une seule méduse ne m'a touché. Je ne sais pas par quel miracle j'ai réussi à slalomer entre tous ces individus, mais j'en retiens une espèce de plongée un peu parfaite avec un compagnonnage et une harmonie avec ces animaux. Et peut-être depuis ce moment-là, les méduses sont devenues amies.
Et peut-être une petite anecdote avec un requin pour qu'on soit à égalité dès le départ.
Oui, les requins, j'ai une grande fascination pour les requins, effectivement, les mal-aimés du monde sous-marin. J'ai tellement d'histoires avec les requins, mais je dirais peut-être ma première rencontre avec le requin qui me fascine le plus, c'est le requin marteau, le grand requin marteau. En Polynésie, j'étais à l'eau avec ma fille, à l'époque elle avait 8 ans, et on était à Tikehau, en Polynésie, on cherchait à nager avec des requins tigres. Et les requins tigres sont extrêmement impressionnants, ce sont des requins qui sont responsables de quelques attaques, donc on n'était pas tranquille. Et là, soudain, un requin marteau est arrivé. Et finalement, il a volé le spectacle. Je suis resté subjugué parce qu'il est passé pendant 2-3 minutes. Et son comportement, son agilité dans l'eau, sa taille, sa prestance, c'est vraiment un grand prédateur, a laissé une trace indélébile. Et j'en garde un souvenir assez marqué.
Joanne Maurier, est-ce que vous pourriez nous définir ce qu'est un requin ?
Alors, requin, tout d'abord, c'est un poisson. Un poisson un peu particulier parce qu'il est constitué d'un cartilage, de cartilage et non d'os, comme les arêtes de poisson. Il est dépourvu de vestiges natatoires, donc il va avoir tendance à couler s'il s'arrête de nager. Et c'est un poisson assez ancien, qui est apparu à peu près il y a 400 millions d'années. Donc c'est une marque aussi de l'évolution, il s'est très bien adapté à son milieu.
Quand vous dites cartilage et non pas os, ça veut dire que ça se plie en gros, ça veut dire que ça permet plus de mouvement, c'est quoi la différence ?
C'est plus flexible, c'est plus léger aussi. Donc ça lui permet de s'adapter. Il va compenser en fait sa perte de flottabilité. Donc ça, il va avoir tendance à couler, mais il va compenser ça avec un squelette plus léger et aussi du coup un foie plus important qui va lui permettre un peu de flotter un peu plus.
Si on voit un aileron quelque part à un moment, est-ce qu'on se dit immédiatement que c'est un requin ? Comment est-ce qu'on reconnaît qu'on a un requin face à nous ?
Alors tous les requins ne viennent pas forcément en surface, donc on ne va pas forcément voir leurs ailerons. Mais c'est une démarche, donc c'est constitué du coup de deux grandes nageoires pectorales en général, qui vont représenter à peu près ses bras, et puis une nageoire du coup dorsale qui peut être caractéristique. Alors certains n'ont pas de nageoire dorsale non plus, donc c'est pas forcément un critère absolu, et une grande nageoire aussi caudale avec des ondulations en fait lorsqu'il va nager, donc c'est assez majestueux en général quand il nage.
Ça c'est la nageoire qui est derrière, c'est ça ?
La nageoire caudale, voilà, c'est la queue entre guillemets.
Bill François, est-ce que vous pourriez nous définir aussi ce qu'est une méduse du coup ?
Alors une méduse, c'est du corail techniquement, c'est-à-dire ça peut nous faire déjà un peu plus aimer la méduse comme on aime bien le corail.
Ah, vous commencez déjà.
C'est non seulement le même embranchement, mais c'est même très souvent le même animal, c'est-à-dire que le polype corallien qui vit fixé comme ça à une colonie corallienne va être une phase de la vie de la méduse, et à un moment donné il va pouvoir, pour certaines espèces, en sortir de cette phase fixée et nager en pleine eau, ou à l'inverse, une méduse qui va nager en pleine eau va pouvoir se fixer et devenir un polype corallien. Alors, il y a aussi des méduses qui restent en pleine eau toute leur vie. Le corail, en revanche, a une phase de méduse au début de sa vie à chaque fois, parce que lorsqu'il va naître, c'est en pleine eau, la fécondation s'effectue en pleine eau. Et donc, c'est deux animaux qui ne sont que les deux faces d'une même pièce, d'une même médaille. Et on les regroupe dans l'embranchement de ce qu'on appelle les cnidaires. Ça vient d'Aristote, ça, le nom est un peu moins sympa. Ça veut dire qui pique. Cnidaire, ça veut dire qui pique, qui est urticant. Voilà, on a longtemps d'ailleurs appelé les méduses des orties de mer, pour la même raison assez évidente. Il y a que Pline qui les appelait des poumons marins, ce qui est un peu plus poétique. magnifique parce que ça. Mais en fait, ça n'a pas de poumons, hein, les méduses. Ça n'a ni poumons, ni cerveau, ni. Enfin, ça n'a quasiment aucun organe. C'est à 95% constitué d'eau.
Est-ce que leur nom est mérité, à savoir, est-ce que toutes les méduses piquent ?
Alors, toutes les méduses ne piquent pas. Non, rassurez-vous, la plupart ne piquent pas. En tout cas, c'est plutôt qu'on n'est pas allergique à leur piqûre. Et d'ailleurs, pour certaines, ça dépend des individus. Par exemple, les grosses méduses qu'on surnomme les œufs au plat. C'est des grosses méduses un peu marron, où il y a des petits ronds bleus en dessous. On les voit souvent en Méditerranée, elles sont très belles. Pour la plupart des gens, les méduses, eux, au plat, ne piquent pas. On peut jouer avec sans problème, mais on peut aussi être allergique, ça peut arriver. Donc, ça dépend des gens.
Et lorsqu'on se fait piquer par une méduse, c'est quoi ce qui pique dans une méduse ?
Alors, ce qui pique dans une méduse, c'est au niveau des filaments, ce qu'on appelle les tentacules, hein, qui possèdent des petits harpons, ce qu'on appelle des nématocystes. Donc, c'est des petites cellules avec un petit cil qui va chimiquement détecter des substances qu'il y a sur notre peau ou sur celle des poissons ou sur la carapace des crustacés, etc. Et quand elle détecte un certain nombre de substances, ça lance un petit harpon qui lance du venin, hein, tout simplement. Il y en a plusieurs millions par tentacule. Donc, il suffit qu'on en touche une pour se faire piquer. Voilà.
Et une fois que le venin, disons, est en nous, une fois que ces harpons ont été lancés, est-ce que... Moi, j'ai entendu dire 1000 fois sur la plage, lorsque je vois des enfants ou des adultes se faire piquer, qu'il y a quelques techniques de base pour enlever ce poison. Alors, je vais le dire, par exemple, faire pipi dessus ou mettre du vinaigre. Est-ce que ce genre de choses marche ?
Non. Non, alors plus précisément, le pipi, non, le vinaigre, oui. Peut-être si vous avez bu beaucoup de vinaigre, le pipi pourra fonctionner, mais je suis pas sûr. Non, en fait, le vinaigre, la chaleur neutralise effectivement le venin. Les antihistaminiques neutralisent la réaction allergique, donc ça peut être aussi une solution. Des crèmes antidouleurs également. Par contre, uriner, frotter, mettre de l'alcool, de l'eau douce, de la mousse à raser ou que sais-je sur la piqûre de méduse, ça n'est pas une bonne idée, déjà parce que ça va... Il reste souvent des tentacules un peu, oui. Et puis des nématocystes qui n'ont pas encore été activés, ça va avoir tendance à les activer, donc ça va nous piquer encore plus. À la limite, il vaut mieux retirer les tentacules, si on les voit, avec des gants, hein, pour pas se piquer les doigts, ou avec une carte de crédit pour un objet comme ça en plastique.
Qui de n'importe quelle banque.
Oui, ça fonctionne, c'est compatible avec toutes les banques. Je sais pas si elles prennent l'American Express. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de danger pour les méduses présentes sur nos côtes. Par contre, certaines personnes très allergiques peuvent développer une réaction allergique. Et à ce moment-là, faut vite aller aux urgences. Ou faut aller aussi aux urgences si ça pique au niveau des yeux.
Voilà. Oui, parce que là, ça peut être dangereux. On a une petite idée du nombre de morts par an sur Terre. Moi, j'avais regardé un petit peu. Il y a combien de morts sur Terre par an à cause des méduses ?
Une cinquantaine. C'est 10 fois plus que pour les requins.
Alors, en plus... moi, j'ai vu un chiffre un petit peu plus élevé, donc vous essayez déjà d'arnaquer les gens sur... j'avais vu une centaine de morts... une centaine de morts pour les méduses.
Mais est-ce qu'ils étaient tous vraiment morts ?
Oui, peut-être pas. Je veux bien vous l'accorder. Joanne Mourier, les attaques de requins qui font peur à absolument tout le monde, est-ce qu'elles sont fréquentes ?
En effet, elles ne sont pas si fréquentes que ça, parce qu'on recense à peu près, on va dire, une dizaine de morts par an dans le monde entier. Donc il faut voir que c'est quand même très, très faible. Et en général, une centaine d'incidents, on va dire, dans le monde, donc de morsures qui ne vont pas être mortelles. Alors on essaye, nous scientifiques, de changer un peu la mentalité, c'est-à-dire de pousser à changer le terme d'attaque. Parce qu'en fait, le requin ne va pas forcément y aller, on va dire, de son vouloir. Donc c'est souvent un incident, une interaction ou une morsure. On va plutôt essayer de changer un peu les mentalités pour justement améliorer notre rapport au requin.
Vous avez déjà eu peur face à un requin, Guillaume Néry ?
Alors peur, être vigilant, oui. Parce qu'on n'est pas c'est pas un petit chiot qu'on caresse, on est dans le monde sauvage, donc et je pense qu'il est extrêmement important de rappeler que dans le monde sauvage, quel que soit l'animal que l'on rencontre, il faut garder une vigilance. Certains requins, je me méfie de certains requins plus que d'autres. Je dirais que celui qui est le plus, j'allais employer un mauvais adjectif, j'allais dire sournois, sous-entendu que il y aurait une arrière-pensée de ce requin, mais disons qu'il y a des stratégies d'approche dont il faut se méfier. Je dirais que c'est le requin Longimanus qu'on trouve un peu partout dans l'océan.
C'est un requin pélagique qui vit en pleine eau. Et qui dit pélagique, finalement, il va avoir très peu d'opportunités pour trouver la nourriture en pleine mer. Et
il a cette réputation d'ailleurs d'être le quand il y a un crash d'avion par exemple au large, c'est celui qui va aller se nourrir des cadavres. Donc forcément, dans l'inconscient collectif, ça laisse une empreinte. Mais c'est vrai que c'est un requin. C'est le premier requin que j'ai rencontré d'ailleurs en Égypte en 2005.
Taille ces requins-là.
Ils sont pas très grands, mais par contre, la particularité, c'est qu'ils ont les nageoires pectorales qui sont immenses. Donc, c'est un peu la représentation, le dessin. Si on demandait à un enfant de dessiner un beau requin, c'est lui qu'on dessine. Et il est très gracieux, mais par contre, c'est vrai qu'il se débrouille toujours quand on le regarde et qu'on le cherche dans le bleu pour arriver dans le dos et si possible dans l'axe du soleil pour qu'il soit le moins visible possible.
C'est pas très bon pour vous, ça, Joanne Mourier. Mais peut-être que vous pouvez nous raconter, vous, une plongée que vous avez faite avec plein de requins partout.
Alors moi, ça va être un souvenir assez mémorable. Je vais revenir d'ailleurs sur le grand requin marteau évoqué par Guillaume au début de l'émission. On était en plongée en train d'étudier la chasse des requins gris. Donc là, il faut s'imaginer dans une passe en pleine nuit, des centaines de requins gris qui sont le long du fond et qui chassent en fait tous les petits poissons. Et donc nous, on était un peu au milieu de tout ça, donc déjà on fait un peu attention parce que ça chasse un peu dans tous les sens.
Vous étiez dans quel coin du monde ?
Donc là, c'était en Polynésie, dans la passe de Fakarava. Et on s'est aperçu en fait à un moment donné que beaucoup de requins se sont mis à partir d'un coup, à fuir. Et là, on a vu arriver un grand requin marteau qui venait venir chasser finalement d'autres requins, qui étaient les requins gris. Donc là, le requin gris qui est un prédateur passe pour proie. Et quand on voit un requin gris qui est à peu près notre taille, on se dit que finalement, dans cette situation-là, on se retrouve un peu comme la proie aussi.
Est-ce que c'est le seul requin, le requin marteau, qui se nourrit de ses congénères, ou est-ce qu'il y a d'autres espèces de requins qui mangent ?
Il y a plusieurs espèces. Alors, pas mal d'espèces vont pouvoir aussi se chasser des petits requins, donc des jeunes. Et autrement, on va avoir d'autres espèces comme le requin tigre, le requin bulldog, qui sont connus aussi pour aller attaquer d'autres congénères.
Est-ce que le requin blanc, qui est dans l'imaginaire collectif, est le plus dangereux des requins ?
Il fait partie des trois espèces le plus impliquées dans les morsures, donc qui sont avec le requin tigre et le requin bulldog. Mais c'est dans certaines zones du monde, donc c'est assez localisé. Mais oui, en effet, il fait partie des espèces qui sont les plus impliquées.
Eh bien, écoutez, c'est bien d'avoir fait cette petite introduction, car après la musique que nous allons écouter, nous allons avoir vos plaidoiries à l'un et à l'autre pour les requins et pour les méduses. Nous allons donc écouter, pour l'instant, je retrouve le nom de la chanson, voilà, c'est Kraken, un monstre des mers, par Florence and the Machine.
Sometimes my body seems so alien to me. I quiet it down by watching TV, but grow restless and grow hungry as the water rises up around me. You come on screen, so good looking it's obscene. I put my fist into my mouth and scream. Some things it seems are catching up with me. And as it rises to my chin, I should really stop watching. And as I reach for the remote, it is rushing down my throat. I let it in, I start to swim. I grow many arms and legs, and then I start to sing. And all of my peers, they had such potential, but the swamp, it took them down. And my love, I have to tell you, I kissed them all.
Where do you see me now? so tender as I caress your cheek. Did you know how big I would become and how much I would eat? So glamorous and ravenous as I drag you off your feet. There's nothing you can do. Some things it seems are catching up.
Nous sommes toujours en direct et en compagnie de mes trois invités, l'apnéiste Guillaume Néry, l'écologue Johan Mourier, le biophysicien Bill François, pour faire requin versus méduse avec le public du studio 621.
France Inter. Big Bang. Christophe Galfard.
Dans quelques instants, nos deux scientifiques vont plaider pour leur espèce, mais avant, je voudrais quand même sonder le public qui est ici pour savoir à présent, là, maintenant, si on devait voter, qui est plutôt méduse? Vous pouvez faire du bruit. Alors, vous, vous préférez qu'on garde les méduses et qu'on enlève les requins. Vous n'êtes pas nombreux. Qui préfère les requins? Ah, il y en a plus, il y en a plus. Bill François, vous allez avoir du travail. Nous allons donc écouter, vous allez avoir 2 minutes chacun. Dans les 10 dernières secondes, il y aura un petit tic-tac avant une corde de brume qui va vous annoncer la fin des 2 minutes. Vous avez 2 minutes pour faire en sorte qu'on garde les méduses et non pas les requins. Bill François, c'est parti, c'est à vous.
Bon, déjà, attaquer les méduses, c'est donner un coup d'épée dans l'eau, hein, puisqu'elles sont constituées à 95% d'eau. Elles n'ont ni cœur, ni poumon, ni cerveau. Elles ne sont même pas des bilatériens, c'est-à-dire des animaux comme vous et moi, qui ont un côté gauche et un côté droit. Elles n'ont ni gauche ni droite, les méduses. Mais pas comme nos politiciens, hein, qui disent la même chose pour ne pas dire qu'ils sont de droite. Mais tout simplement parce qu'elles sont très primitives. Elles ont 150 millions d'années, les méduses. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de côté pour les êtres vivants. Elles ont gardé ce très là, 650 millions d'années, donc les requins à l'époque, hein, ils étaient panés, comme les poissons panés. Alors, malgré cette apparente simplicité, la méduse, elle arrive à faire des choses absolument incroyables, hein. Il y a des méduses qui sont immortelles, lorsqu'elles subissent les affres du temps, elles arrivent à rajeunir, et elles peuvent faire ça indéfiniment, et pourtant, il y en a quand même qui choisissent de mourir pour sauver leur espèce de la consanguinité, donc elles ont le sens du sacrifice, encore une fois, pas un grand sacrifice, parce qu'elles n'ont pas de cerveau, c'est pas un dilemme cornélien, mais c'est quand même assez incroyable. Puis il y en a qui, à l'inverse, au lieu d'être immortels, sont super mortels et qui peuvent vous tuer en moins de 3 minutes. Hein. Puis même celles qui ne sont pas mortelles, il y a quand même 150 millions de piqûres par an de méduses. Ça vous pique en 600 nanosecondes. On n'imagine même pas ce que c'est. Mais voilà, vous n'avez même pas le temps de le voir qu'elle vous a déjà piqué. Mais mieux que ça, hein, elles peuvent aussi sauver des vies, les méduses. On en a tiré énormément d'applications médicales. Il y a 2 prix Nobel qui ont été obtenus grâce à des méduses, en particulier la découverte des allergies, de ce qu'on a appelé l'anaphylaxie. Donc tout le phénomène des allergies, c'est en étudiant la physalie, qui est un très proche parent de la méduse, hein, qu'on l'a découvert. Donc elles sauvent énormément de vies, et puis elles sauvent la vie, parce qu'elles nourrissent tout l'océan, les méduses, avec la façon qu'elles ont de faire circuler des nutriments dans la colonne d'eau. Elles sont responsables par exemple d'un quart du phosphore qui nourrit le phytoplancton, et le phytoplancton lui-même, c'est la moitié de l'oxygène qu'on respire, ce qui veut dire mathématiquement qu'un quart d'une respiration sur 2, donc une respiration sur 8, eh bien c'est les méduses. Vous avez donc déjà depuis ces 2 minutes respiré 8 fois grâce aux méduses, donc Guillaume Néry y pensera, hein, pour ses apnées.
Bravo Bill François. Et je trouve que c'est un bel hommage à Guillaume Nery parce qu'on a un peu l'impression que vous avez fait votre présentation en apnée. Tout du long.
Moi aussi. Hein.
Donc bravo. Joanne Mourier, vous êtes prêts? Ça va être à vous
c'est
de
parti.
Nous faire aimer les requins plus que les méduses. Le chronomètre commence maintenant. Vous avez 2 minutes.
Alors les requins sont apparus il y a 400 millions d'années, c'est-à-dire bien avant les dinosaures. Et pourtant, ils ont survécu à 3 grandes crises majeures d'extinction. Ils sont représentés par plus de 500 espèces, aux formes et écologies totalement différentes. Ils se sont très bien adaptés à tous les milieux. On les retrouve dans tous les océans et mers du monde, que ce soit dans les milieux tropicaux, tempérés, voire même polaires. Et on peut même en retrouver dans certaines rivières. Ils sont aussi apparus ils sont présents de la surface jusqu'à 3000 mètres de profondeur. Et ils ont la particularité, comme on a pu le dire, d'être dotés d'un squelette cartilagineux, ce qui leur rend souplesse et flexibilité. Ils ont plusieurs modes de reproduction. Ils détiennent aussi, par le biais d'une des espèces, le requin du Groenland, le record de longévité chez les vertébrés. On estime à 200 à 400 ans. Ils sont capables de comportements collectifs relativement complexes, comme de l'apprentissage, des comportements sociaux et collectifs, et ont d'ailleurs un ratio cerveau-corps comparable à celui de nombreux mammifères et oiseaux, ce qui est un signe d'intelligence. Ils ont aussi développé de super pouvoirs, comme la cicatrisation très efficace, la fluorescence, et ont développé un sixième sens, qui est l'électroréception. Ils ont inspiré nos sociétés et façonné notre imaginaire, et ne nous laisse pas indifférents. Mais il reste le groupe taxonomique le plus menacé au monde, puisqu'un tiers des requins, des espèces de requins, sont menacées actuellement d'extinction. En gros, on pourrait résumer en une fragile perfection, puisque leurs adaptations en fait évolutives sont maintenant une faiblesse et qui les pousse à leur perte.
Vous voyez, Bill François, il a respecté le temps, Joanne Mourier, il a fini juste avant. Et en plus, il y a eu ce calme dans la présentation de quelqu'un qui a confiance. Bravo, c'est pas facile de faire ça en 2 minutes, de nous présenter ces animaux. Alors, je vais pas tout de suite demander à tout le monde ce qu'on a pensé de ça. On va continuer à vous poser quelques questions. Moi, j'ai une nouvelle question pour vous, Joanne Mourier. Est-ce que si on se fait attaquer par un requin, l'idée reçue, à savoir lui mettre un bon gros coup de poing dans le pif, fonctionne pour les écarter?
Alors, oui et non. Déjà, il faut avoir la chance de pouvoir le faire, ce qui est pas toujours évident.
Parce
qu'ils ont vraiment des pores sensoriels qui sont pas mal répartis sur le museau, donc ils sont assez sensibles du museau. Donc souvent on va évoquer ceci. Après on va aussi parler des yeux, des choses comme ça. Mais c'est pas la première chose, la chose la plus efficace qu'on va pouvoir avoir lorsqu'on se fait mordre.
Pour la méduse, ça marche pas non plus.
Guillaume Nery, lorsque vous êtes au fin fond de l'océan à moins 100 mètres. Le plus près que j'en ai évidemment comme ressenti, c'était le Grand Bleu. Est-ce que vous avez cette sensation d'être réellement dans un domaine qui nous est étranger à nous, qui appartient à d'autres espèces?
C'est clair qu'il y a... C'est d'ailleurs ce qui me fascine le plus, et ce qui fait que j'y retourne à chaque fois, c'est d'aller mettre un pied, une palme dans l'inconnu, observer, et puis remonter parce que c'est pas chez moi. Et d'avoir ce privilège de pouvoir d'avoir ce petit temps qui est très court d'observation, de ressentir aussi, parce que quand je suis très profond, on peut pas dire que ça soit une observation avec les yeux, c'est une observation avec l'ensemble des sens, ressentir l'océan, ressentir sa pulsation, ressentir la mer, sa température, la pression qui écrase le corps, et puis oui, entrouvrir les yeux et puis voir ce bleu très profond, c'est quelque chose qui est extraordinaire, hein. Mais je vais pas jouer sur le côté homme dauphin qui appartient à la mer. Non, je suis un terrien et un visiteur, mais qui est très heureux de retourner sur Terre.
Tout à l'heure, vous disiez qu'au large de Nice, lors d'une plongée, la mer était quasi recouverte d'une gélatine faite de méduses. Bill François, est-ce qu'on a une augmentation du nombre de méduses qui est notable. Est-ce que c'est dans notre esprit? Est-ce que sur les côtes méditerranéennes ou atlantiques ou du nord, ou voire dans les territoires, je sais pas, en Calédonie ou
oui, c'est un des rares animaux, un des rares embranchements animaux qui n'est pas en train de totalement décliner, mais qui est plutôt sur l'augmentation dans toutes les mers du globe. Bon, dans sa généralité, hein, il y a évidemment des espèces probablement qui déclinent, mais la plupart des méduses, ça augmente. Ça augmente énormément pour plein de raisons. Déjà parce qu'elles sont très tolérantes à la hausse des températures. Et même à l'acidification des océans et à la baisse de l'oxygène dissous dans l'eau qui est concomitante de la hausse des températures. Elles aiment bien aussi tout ce qui est pollution, intrants agricoles, toutes les saletés qu'on déverse dans l'eau. Même les pontons et les infrastructures portuaires, ça permet aux phases coralliennes des méduses de se fixer et de proliférer. Hein. Donc voilà, elles profitent énormément de toutes les mauvaises choses qu'on fait, et aussi en particulier la surpêche. Parce que voilà, quand on supprime des poissons, on supprime des prédateurs des méduses. Un thon, par exemple, ça va manger plusieurs fois son poids en méduses tous les jours. Et donc, quand on supprime ces animaux-là, eh bien, la mer se gélatinise. Tout l'écosystème, en fait, passe d'un écosystème dominé par les poissons à un écosystème dominé par les méduses. Ça a été vraiment démontré que dans certaines zones du globe, il y a des invasions comme ça de méduses.
Est-ce qu'il en est de même pour les requins? Joanne Maurier, est-ce qu'on sent une... Alors, vous disiez tout à l'heure qu'elles sont menacées, la plupart des espèces de requins sont menacées, mais est-ce que certaines espèces se rapprocheraient plus des côtes? Parce qu'on en parle beaucoup dans les médias, dès qu'il se passe quelque chose, tout le monde en entend parler, notamment à la Réunion ou en Calédonie, ça fait la une des journaux. Est-ce que c'est parce qu'il y a une présence de requins qui augmente au niveau des côtes, au lieu d'être au large, comme ils auraient pu l'être depuis longtemps?
Non, alors globalement, en fait, comme je l'ai dit, on a une diminution des populations de requins, globalement, et c'est une tendance, en tout cas, qui s'accentue de plus en plus. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que de plus en plus, on va avoir des moyens d'observation qui vont être accrus via les réseaux sociaux. On peut facilement, en fait, mettre en avant une observation, ce qu'on ne faisait pas forcément avant. Donc en fait, il y a un petit biais comme ça de nos sociétés qui va mettre en avant les observations de requins qu'on a sur nos côtes. Chaque année, vous allez avoir dans les médias ici, en Méditerranée, par exemple, l'observation de requins peau bleue. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps et c'est assez saisonnier. Mais maintenant, c'est relayé par tous les réseaux et on a tendance à le mettre beaucoup plus en avant que ce qu'on le faisait auparavant.
Est-ce que les requins... Pardon, Guillaume Néry.
Oui, non, de la réponse à cette question de la courbe des populations me fait dire que ce combat qu'on organise ici, l'humain fait tout, en tout cas, pour faire gagner la méduse. De ce que j'entends, c'est que l'activité humaine, la trajectoire de nos sociétés modernes...
Bill François est très content. Hein.
Ah ben oui, je vois. Je vois que c'est l'espèce la plus heureuse là, de la catastrophe qui est en train de se jouer. Est-ce qu'on peut dire que c'est une espèce opportuniste, invasive? Comment on peut la qualifier, cette espèce qui profite de la disparition de l'océan mal en point?
Bill François, vous voulez répondre à ça?
Il y a peut-être un nom pour ça, mais je ne connais pas le nom. Mais en tout cas, c'est vrai qu'elle en profite bien. Oui.
Pardon?
C'est vrai qu'elle profite bien de l'activité humaine, la méduse. Elle va en bénéficier.
Est-ce que ça veut dire aussi, quelque part, que si la surpêche est, stoppée, il y aura amplement suffisamment à manger pour les espèces qui sont là et pour proliférer à nouveau et rétablir un nouvel équilibre?
Ben, tout dépend si on passe un point de non-retour ou pas. Avec la surpêche, c'est comme ça que ça se passe. Les chaînes alimentaires de l'océan, elles sont très compliquées. Il y a des dizaines d'échelons. En fait, nous, sur Terre, c'est le producteur primaire, la plante, qui est mangée par un herbivore, qui est éventuellement mangée par un carnivore, et ça s'arrête là. C'est trois échelons. Tandis que dans la mer, c'est des dizaines et des dizaines d'échelons. Plein de petites larves qui en mangent d'autres, qui se font manger par des trucs un peu plus gros. Et puis ensuite, quand elles deviennent adultes, elles deviennent le prédateur d'un truc qui était leur prédateur avant, etc. Donc, il y a 10 ou 12 échelons à chaque fois. Puis si on en enlève un, ça peut tout bouleverser. Et on le voit, par exemple, la pêcherie des morues à Terre-Neuve, qui s'est effondrée dans les années 90, elle n'est toujours pas revenue et elle reviendra probablement jamais parce que on est passé sur un nouvel équilibre, et on a dépassé un point de non-retour. À l'inverse, le thon rouge qui a été sauvé in extremis par la chute de Kadhafi, et donc un arrêt momentané du braconnage qui était effectué par les navires français sur le thon rouge, il est revenu en grande quantité, et alors qu'il était aussi au bord de l'extinction. Donc ça dépend des espèces, et malheureusement on a déjà abîmé énormément de populations de poissons au-delà d'un point de non-retour, mais on en a aussi énormément qui restent à sauver.
Guillaume Néry.
Oui, j'ai une question pour Bill, parce que face à la prolifération d'une espèce, la solution, ça pourrait être d'en trouver une utilité pour l'humain. Alors, j'ai bien compris que la méduse, c'est 98-99% d'eau, enfin, je ne sais plus le chiffre exact, mais est-ce que le reste de matière, est-ce que quelqu'un a déjà pensé à une utilisation, que ce soit pour la consommation? Il y a des grands chefs qui pensent à qui utilisent des produits assez incongrus. Est-ce que c'est possible, envisageable ou pas du tout?
Oui, il y a des pistes, c'est envisageable. Après, l'océan, c'est très grand, et autant faire disparaître une espèce, on sait faire. Autant quand on veut vraiment en faire disparaître une, c'est beaucoup plus difficile, quoi. C'est souvent, malheureusement, c'est pas toujours comme on veut, mais c'est vrai qu'il y a eu des usages. Alors, même le fait que ça contienne de l'eau, hein, les anciens utilisaient les méduses pour hydrater les vignes en Charente, un peu comme ces blocs de gélatine qu'on utilise quand on part en week-end pour pas avoir à arroser les plantes. C'était le même principe.
Et ça a marché?
Ça marchait.
Est-ce
à l'époque.
Que c'est ça qui a donné le vin pétillant?
Non, je pense pas.
Ou le vin nature.
Mais
là,
voilà,
qui pique
ça, ça pourrait être le genre d'idée de start-up de l'économie bleue, comme ils disent. Hein. Mais enfin bon, on sait bien que toute start-up comme ça qui vise à faire de la croissance n'est pas une solution à long terme pour quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'on pourrait trouver des solutions. En tout cas, il y a plein d'usages à la méduse. Il y a plein de pays où on en mange, évidemment, et on pourrait le faire ici. Il y a aussi le collagène qui est proche de celui des embryons, qui a des tas d'applications médicales pour les victimes de brûlures, par exemple. Puis on pourra sûrement en trouver plein d'autres choses à faire avec des méduses, je suis sûr.
Alors, juste avant d'écouter la musique et de passer aux questions du public, j'ai juste une dernière petite question pour vous, Joanne Mourier. Est-ce qu'un requin mignon, ça existe?
Drôle de question. Oui, j'ai dit qu'il y avait plus de 500 espèces de requins. Donc certaines ont bien sûr la forme globale du requin avec des dents acérées. Et tout, mais on va avoir des espèces, d'ailleurs certaines que vous connaissez certainement ici, la roussette, c'est un petit requin qui va faire un peu moins d'un mètre en tout cas, qui est plutôt mignon, on va le voir dans les aquariums. Vous avez le requin bambou, ou d'autres requins de Port Jackson, requin nourrice, voilà, des requins qui sont assez mignons, assez dociles. Donc,
le requin baleine aussi.
Le requin baleine, bah, alors celui-là est beaucoup plus imposant, mais en effet il va manger surtout du plancton et voilà, donc c'est des espèces qui sont plutôt... docile.
On mettra quelques images sur les réseaux sociaux après cette émission. Et nous allons écouter Mobilis in Mobile, qui est un petit peu le mojo du capitaine Nemo dans son Nautilus, c'est-à-dire ce qui bouge dans ce qui bouge.
Pris leur place, alors elles s'effacent. Quand les vérités sont banales, elles s'étalent dans le journal. Il vaut mieux tourner la page, partir en voyage. J'irai voir en tôt ou tard si les sirènes existent sur le dos des baleines. Je suivrai leur piste, car nul ne résiste au charme doux de leur chant d'amour. J'irai voir tôt ou tard si les sirènes insistent sous les flots qui m'entraînent. Je suivrai leur piste, car nul ne résiste au charme doux de leur chant d'amour. Mobilis, une mobile, bonne étoile. On les voit lever le voile, tout leur est égal. Quand les vérités aux mains sales se construisent des cathédrales, il vaut mieux fuir à la nage, partir en voyage. J'irai voir tôt ou tard si les sirènes existent.
C'était Mobilis in Mobile de l'affaire Louis Trio. Et nous sommes toujours en direct et en compagnie de mes trois invités, l'apnéiste Guillaume Néry, l'écologue Joanne Mourier et le biophysicien Bill François. Et bien sûr, le public du studio 621 qui s'apprête à poser ses questions.
France Inter. Christophe Galfard. Big Bang.
Alors, nous avons une première question. Nous vous écoutons.
Bonjour, je suis Catherine. J'aimerais savoir, dans le cadre du combat qui se joue ici aujourd'hui, si les méduses peuvent piquer les requins et si les requins peuvent manger des méduses.
Alors, qui veut répondre en premier ? Joanne Mourier, peut-être ?
Alors, est-ce que les méduses peuvent piquer les requins ? Certainement, mais je ne suis pas certain en fait que les requins le ressentent. Donc, je pense qu'ils sont plutôt protégés par leurs denticules cutanées. Et après, je sais que certains requins, en tout cas, vont pouvoir manger des méduses.
Est-ce qu'ils ont des écailles, les requins ?
En fait, c'est une transformation des dents. C'est des petites dents qui recouvrent toute la peau du requin.
Et vous êtes fichu pour la compétition, là. Si vous dites qu'ils ont des dents absolument partout sur leur peau.
C'est mais qu'on utilise d'ailleurs dans l'aéronautique pour les propriétés hydrodynamiques.
Voilà.
Donc, on a des revêtements qui sont faits à base de. Enfin, inspirés, en tout cas, des denticules de requins.
Bill François, vous pensez que...
Mais effectivement, la méduse, elle perd sur ce match-là. oui, elle se fait manger par les requins, mais je ne pense pas qu'elle puisse vraiment se venger.
Nous avons une deuxième question de Céleste.
Qu'est-ce qu'on doit faire quand on est face à un requin ?
Alors, bonne question. Il faut... Alors, ça dépend déjà dans quelles circonstances, mais on va dire en plongée ou en apnée. Je pense que la meilleure chose, c'est déjà de l'observer, d'observer son comportement. De sortir un peu de sa zone, en fait, de garder une zone de confort, c'est-à-dire une distance avec lui. Et puis, en cas d'agressivité, c'est essayer de s'éloigner et de sortir de l'eau quand on pleut.
Oui, moi je dirais d'expérience, extrêmement important, c'est de garder son calme.
C'est ça.
C'est de respirer très calmement, d'essayer de ne pas s'emballer, de ne pas avoir le comportement de la fuite, parce que le requin, je pense, est très sensible, c'est un prédateur, hein, il voit quelqu'un qui fuit, il se dit tiens, il a quelque chose à se reprocher celui-là, donc je vais le... j'ai l'impression que les requins sont assez sensibles à ce...
Oui, puis ils sont pas vraiment téméraires en fait, ils vont rester quand même à distance en général, et vous observez, mais restez assez éloigné. En tout cas, quand on est en plongée ou en apnée. Et donc, si en effet on reste calme, en général, on arrive à éviter l'interaction négative.
Nous avons une troisième question de Lou.
Si les méduses n'ont pas d'organes, comment font-elles pour vivre ?
Alors, elles ont des organes quand même, hein. Elles ont juste pas les mêmes que les nôtres, ils sont beaucoup plus simples, il y a un système qui leur permet de digérer leur nourriture, elles ont l'équivalent des muscles mais qui fonctionnent uniquement de manière hydraulique dans l'eau, donc elles arrivent à vivre. Et après il y a aussi des choses qu'elles arrivent à faire différemment de nous et sans avoir les organes qui chez nous servent à ça, par exemple le sommeil. On sait que les méduses, elles dorment, en particulier ça a été étudié chez la méduse Cassiopée, une méduse qui vit à l'envers. C'est très très mignon à voir, elle est à l'envers. Et en fait, elle dort, c'est-à-dire qu'elle a des phases comme ça indispensables à sa vie où régulièrement, tous les jours, enfin toutes les nuits, elle doit se reposer. Et on peut la réveiller, mais elle est plus dure à réveiller qu'à activer quand elle est active. Donc, c'est vraiment comme du sommeil. Ça a l'air d'être lié aux mêmes hormones que nous, d'ailleurs, la mélatonine, etc. Mais on ne sait pas vraiment comment ça marche parce qu'elle n'a pas de cerveau. Et que pour nous, le sommeil, c'est avant tout le cerveau.
Est-ce que les requins dorment aussi, Joanne Mourier ?
Alors, ils dorment pas vraiment, en fait. Ils vont avoir des phases un peu inactives. Certains, et la plupart des requins, donc, vont couler. Donc, certains vont être capables de ventiler par eux-mêmes. Et certains requins, en fait, certaines espèces sont connues pour, s'asphyxier si elles ne nagent pas continuellement. Et on a pu montrer, par nos travaux notamment, qu'ils étaient capables d'utiliser les courants ascendants par la topographie pour en fait surfer sur les vagues ascendantes et s'oxygéner sans avoir besoin de nager, planer un peu dans les vagues comme le font les rapaces sur les montagnes.
Nous avons une question de Philippe.
Bonjour, je voudrais savoir si on a compris les phénomènes d'attaque de requins à La Réunion et puis un éventuel lien avec la responsabilité de l'homme dans la perturbation des écosystèmes.
Alors c'est une question très compliquée parce qu'en effet c'est multifactoriel. Donc on n'a pas réussi pour l'instant en tout cas à comprendre quelle était réellement la cause à tout ça. Il faut voir en effet que c'est très peu d'attaques par an, ce qui fait que les statistiques à faire sur les causes sont très difficiles à mettre en avant. Il y a certainement des pratiques humaines qui ont été un peu d'ailleurs certainement étouffées dans cette affaire. Par contre, nos travaux sur on a pu marquer des requins, en fait, des requins bulldogs, notamment sur l'île de la Réunion. Et on s'aperçoit que leur mouvement explique, en tout cas, les situations de risque. Donc, entre guillemets, là où ont eu lieu les incidents et à quelle période ont eu lieu les incidents, ça s'explique, en fait, on peut le prédire via leur déplacement. Donc, éliminer les requins, en fait, finalement, on va étouffer la chose, alors qu'on pourrait les équiper d'émetteurs et avoir un système d'alerte quand les individus viennent trop près des plages, par exemple.
Nous avons une question d'Agathe.
Oui, bonjour. Si à la fin de ce combat, la méduse gagne et on élimine tous les requins de la Terre, quelles seraient les conséquences pour nous de cette disparition ?
Alors les requins, il faut voir de nombreuses espèces de requins, parce que tous les requins ne sont pas en haut de la chaîne alimentaire, mais de nombreuses espèces sont en haut de la chaîne alimentaire. Donc ils vont réguler, ils vont avoir plusieurs rôles. Ils vont réguler les maillons qui vont être en dessous d'eux dans la chaîne. Ils vont aussi avoir, ils ont un effet assez important, en fait, indirect à la prédation, qui va être la peur. Ils vont infliger la peur à leur proie, ce qui va modifier leur comportement et va participer à l'évolution en fait des proies. Donc c'est un jeu de prédateur-proie. Si on enlève les prédateurs, en fait, on va modifier ceci. Ils vont par exemple, par ce jeu de peur, en fait, participer à la séquestration du carbone. Alors comment ? C'est parce qu'en fait, en faisant peur aux herbivores, ils vont permettre de protéger certaines zones d'herbiers, notamment, qui vont participer à la séquestration du carbone. Mais c'est un peu plus complexe, parce qu'en effet, comme on l'a dit tout à l'heure, les chaînes alimentaires sont complexes, donc il y a ce qu'on appelle une redondance trophique et fonctionnelle, ce qui fait que si on enlève une espèce, il y aura certainement une autre espèce qui va prendre sa place. Donc c'est un peu difficile à répondre sur le long terme, mais en tout cas, il y aura certainement des effets, en tout cas, pervers.
Nous avons une question de Gérard.
Oui, je me demandais en quoi le biophysicien, plutôt l'aspect physicien, ça, pourquoi il s'intéressait plus particulièrement aux méduses ?
Alors les méduses déjà, petite parenthèse, elles servent beaucoup, notamment à la physique. Hein, c'est le deuxième prix Nobel, je disais, le premier c'est qui a été obtenu grâce aux méduses, c'est l'étude des allergies. Le deuxième, c'est celle de la GFP, la protéine fluorescente verte, qui est une protéine présente chez certaines méduses comme Aichorea victoria. Donc c'est des méduses fluorescentes. Donc elles reçoivent de la lumière du soleil et puis elles la réémettent sous d'autres couleurs, d'autres longueurs d'onde. Et en fait, cette protéine fluorescente, on a su la séquencer, savoir de quoi elle est constituée. restituer et les gènes qui permettent de la coder. Et grâce à ça, on arrive à en faire un marqueur pour les microscopes qui permet de suivre des molécules uniques. Donc vous avez une petite protéine dans votre corps qui va en toucher une autre et puis elles vont se coller et ça va faire une réaction chimique indispensable à votre vie. Ben, en mettant cette petite bille fluorescente, ben, ça permet de le suivre. C'est un peu le microscope du 21e siècle. C'est hyper important. Mais sinon, les méduses, elles ont plein de propriétés physiques absolument incroyables qu'on peut étudier, que ce soit leur nage, l'hydrodynamique de leur nage qui est absolument fascinante, que ce soit même la façon dont ces petits harpons vont se déployer dans les nématocystes. Enfin, c'est un animal absolument passionnant. Mais c'est pas le seul, hein, il y en a plein. Les requins aussi sont.
Oh, c'est beau de dire ça à la fin du combat. Avant de passer au vote, je vous propose d'écouter un petit son mystère. Alors, on va vous le passer dans le studio. Normalement, aucun de vous trois ne l'a déjà entendu, pas que je sache. On va voir si vous arrivez à reconnaître ce que c'est. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez, il n'y a aucun réel enjeu là-dessus, mais c'est un son qui est amusant. Écoutez-le. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose ?
Guillaume qui claque des dents en descendant à 100 mètres de fond.
Eh ben, vous rigolez, Joanne Mourier, mais on n'est pas très loin. On n'est pas très loin du tout. C'est pas mal comme devinette. Mais c'est pas vous, hein, Guillaume, je vous rassure.
Je me demandais si c'était pas les cliquetis des cachalots.
Alors non.
Mais
une fois que je vais vous dire ce que c'est, vous allez l'entendre complètement différemment, comme Élodie Royer, avec qui nous avons préparé cette émission, et qui, l'entendant, a les poils qui se hérissent. Nous allons avoir la réponse que nous a donnée Éric Parmentier, qui est professeur à l'Université de Liège et spécialiste des poissons.
Donc le son que vous venez d'entendre a été enregistré dans des aquariums en Nouvelle-Zélande. Ce sont des petits requins d'1m50 et le son a été produit lorsque ces requins ont été tenus en main. Ces requins-là, parce que ce n'est pas le cas pour tous les requins, ont des dents qui sont assez particulières. Les mâchoires supérieures et inférieures sont garnies de dents en forme de pavé. Donc ce ne sont pas les grosses belles dents pointues que l'on a l'habitude de croiser chez les requins. Ce sont plutôt des dents qui sont faites pour écraser des coquilles de mollusques ou des carapaces de crustacés. Quand on a des poissons qui sont tenus en main, on peut considérer qu'il y a plusieurs types de comportements. Ça peut être simplement un comportement des types aposématiques. Aposématique, ça veut dire en gros, essaye de venir, essaye de te rapprocher si tu veux, mais ça a tes risques et périls. Hein, c'est un peu ce que fait le serpent à sonnette quand il fait du son. C'est juste pour vous prévenir que vous allez franchir une limite au-delà de laquelle l'animal, pour se défendre, va attaquer. On considère que pour d'autres poissons, le fait de faire des sons lorsqu'ils sont tenus en main, c'est l'équivalent de sons de stress ou de sons d'alarme qui pourraient servir à prévenir les autres qu'il y a un danger. Ce que l'on essaye de faire d'une manière générale, lorsque l'on a obtenu les sons des poissons tenus en main, c'est d'essayer de retrouver ces sons lorsqu'ils se baladent simplement dans la nature. Il faut encore pouvoir discerner les sons des requins, des sons émis d'une manière générale dans la mer, donc c'est autrement plus compliqué.
Alors, vu que dans moins d'une minute, nous allons voter entre méduses et requins, je vous fais réécouter ce son. Maintenant que vous savez que c'est un grincement de dents, il est un peu plus désagréable la deuxième fois, une fois qu'on sait ce que c'est. Il est venu le temps du vote. Guillaume Néry, vous avez 10 secondes pour me dire pour qui vous votez. Vous gardez les méduses ou les requins?
Je suis fasciné par la poésie des méduses, mais si les méduses gagnent, c'est les humains qui perdent, donc... Je vais dire les requins.
Les requins. Et le public, alors, qui est pour les méduses? C'est timide. Qui est pour les requins? Ouais, c'est un petit peu mieux. Donc, moi, je vais vous dire pour qui je voterai. C'est assez facile. Les méduses font une centaine de morts par an, je crois, sur Terre. Les requins, un peu moins de 10. Tandis que les noix de coco tuent 150 personnes par an en tombant sur les plages. Donc, je propose qu'on élimine les noix de coco de notre planète. Nous arrivons à la fin de notre émission. C'était Big Bang. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce premier combat. Nous en ferons d'autres. Merci à Éric Parmentier pour votre intervention. Merci beaucoup Guillaume Néry. Merci Joanne Mourier. Votre livre 40 idées fausses sur les requins est disponible aux éditions Quae. Et à Bill François, merci. Vos livres à vous, Les génies des mers, est disponible par exemple dans la collection Chance Science et Eau douce est disponible aux éditions Tana Édition. Merci encore au public du studio 621 de la Maison de la Radio. Cette émission a été réalisée par Antoine Larcher à la programmation. Nous avons à la programmation musicale, pardon, nous avons Jean-Baptiste Audibert, à la technique Tilay Ravu, à la vidéo Thomas Allard et à la préparation et à la programmation, cette personne qui adore les requins qui grincent des dents, Élodie Royer. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous pour plusieurs émissions. Une première qui sera enregistrée lundi avec Alexandre Astier autour des trous noirs et deux autres samedi prochain, une en direct, une enregistrée au Grand Palais. On y parlera de la beauté des mathématiques le matin et des ovnis l'après-midi. Rendez-vous dès maintenant sur le site de la Maison de la Radio et de la Musique pour réserver vos places.